Bonjour, bienvenue sur Tendance Ouest. Bonjour Bertrand Vergely.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie et normalien, vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris et vous écrivez dans votre livre intitulé « Retour à l'émerveillement ». Il est beau de s'émerveiller, on peut être pauvre, sinon c'est s'émerveiller, on est riche. On peut être riche, sinon on ne sait pas s'émerveiller, on est pauvre. Mais de quelle richesse et de quelle pauvreté parlez-vous, Bertrand Vergely?
Mais je parle de la pauvreté et de la richesse intérieure. Nous avons la vie incarnée, matérielle, qui est la nôtre, et qui est la vie que l'on reçoit, parfois la vie que l'on subit, la vie à laquelle nous sommes confrontés parce que nous sommes embarqués dans la nécessité. Et puis, il y a une vie que l'on fait vivre, la vie intérieure, une vie active, la vie de notre âme. Une des plus grandes découvertes de l'existence humaine, c'est la découverte de cette vie liée à l'émerveillement et liée à une expérience d'existence forte.
Mais lorsque chacun d'entre nous regardons notre vie, nous voyons aussi qu'elle n'est pas faite que d'émerveillement.
Écoutez, ça fait longtemps que je réfléchis sur ce livre et je me suis rendu compte que les êtres capables d'émerveillement sont partout. Mais le discours sur l'émerveillement et le discours sur l'existence, il est relativement rare et marginal. Nous sommes abreuvés de mauvaises nouvelles. Nous sommes abreuvés également d'une idéologie qui consiste à dire que si on n'est pas sombre, triste, désespéré, tragique, en fait, on se nourrit d'illusions, on n'est pas lucide. Et donc, tout se passe comme si la tristesse, la morosité, la sinistrose avaient le monopole de l'intelligence. Et ça me paraît très grave parce que ça voudrait dire deux choses. Premièrement, que rien ne se fait dans l'existence. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui font des choses absolument admirables.
Et vous employez des mots forts puisque vous me parliez tout à l'heure hors micro d'une dictature de la noirceur.
Je pense qu'il y a des gens qui profitent du malheur des êtres humains. Et puis je crois aussi que le fait de noircir les choses, de voir la violence, ça permet d'avoir immédiatement du pouvoir. C'est une sorte de coup de poing que l'on donne pour finalement sidérer les esprits, les fasciner en étant celui qui est le plus intelligent, celui à qui on ne la fait pas.
Pour reprendre l'un des versets de Saint Paul dans le Nouveau Testament qui dit « Pourquoi est-ce que je fais le mal que je ne voudrais pas faire et le bien que je voudrais faire, pourquoi est-ce que je ne le fais pas ?»
Bien, je crois que Saint Paul voit bien le combat de l'être humain et il montre quelque chose d'essentiel, c'est que nous sommes divisés tant que notre être profond ne s'est pas accompli. Je crois que pour voir le bien et le faire et pour ne pas faire le mal, je crois qu'il faut aller dans la grande profondeur de soi-même. Finalement, c'est Spinoza qui donne un commentaire de Saint Paul en disant « Les êtres se croient libres, les êtres s'imaginent sous la forme d'êtres idéaux et ils ne sont pas dans la vie, ils n'ont pas encore commencé à vivre. » Et donc, à un moment, c'est la raison pour laquelle ils voient le bien sans adhérer au bien. La preuve, quand je me crois bien et que je m'idéalise, je n'ai pas besoin du bien. Tandis que quand à un moment, je suis dans un état où je suis vraiment affamé et assoiffé de l'existence, là tout d'un coup, lorsque l'existence survient, lorsque la plénitude survient, je n'ai pas envie de la laisser partir. Et donc je m'y attelle.
Mais entre avoir et être, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Autrement dit, entre l'accessoire et l'essentiel d'une vie, comment trouver l'équilibre?
Je pense qu'entre avoir et être, il y a une rupture. Dans la mesure où, véritablement, il s'agit ici de deux trajectoires complètement antinomiques. Je ne parle pas de l'avoir légitime. Je parle de l'opposition dans le monde entre celui qui veut dominer, posséder, et celui qui se laisse saisir par. Donc nous sommes dans l'être, lorsqu'à un moment nous passons par un autre niveau où là nous ne sommes pas dans l'avoir.
Alors justement, Bertrand Vergely, quand est-ce que dans une vie, nous pouvons trouver l'équilibre?
Nous trouvons l'équilibre quand nous acceptons un déséquilibre. Ça, c'est une des grandes lois de l'existence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'équilibre se trouve dans le déséquilibre. Ça veut dire que le déséquilibre, c'est le chaos. Pourquoi le monde est-il chaotique? Parce que le monde est encore à l'état de germe, de naissance. Il n'est pas encore arrivé à maturité. Et pour ça, il faut rentrer dans le monde, il faut rentrer dans la réalité, il faut la vivre, il faut s'incarner, il ne faut pas, je dirais, fuir la réalité. Et c'est là que nous pouvons arriver à une forme d'équilibre. Alors, tous les grands maîtres de toutes les sagesses ont tous fait l'expérience de ce monde. C'est ce que j'appelle l'opération du devenir adulte de nous-mêmes. Toutes les grandes créations, toutes les grandes découvertes, toutes les expériences humaines passionnantes sont bâties autour de cette aventure. C'est l'aventure de la vie. C'est la plus grande aventure qui soit. Et je crois que la plus grande aventure qui soit, c'est se réconcilier avec ce monde et avec cette vie qui ne sont pas évidents au départ.
Justement, par rapport aux deux mots-clés du titre de cette émission diffusée sur Tendance Ouest ce dimanche matin, cœur et vie. Que vous inspirent ces deux mots-clés ?
Le cœur et la vie représentent pour moi, pour le cœur, un principe de connaissance et pour la vie, un principe de réalité. Alors qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie est un souffle de création. La vie est la manifestation de Dieu. Un jour, je parlais avec André Comte-Sponville et on voyait ce qui nous distingue. Et il disait, pour moi, la vie vient de la matière et pour toi, la matière vient de la vie. C'est-à-dire, pour moi, la vie précède la matière. Nous sommes dans un univers créatif. Et ce que nous percevons comme le vide de l'univers est un moment, une phase de la création et de l'expansion. Alors, qu'est-ce que c'est que le cœur ? Le cœur, c'est cette dimension étonnante de l'être où à un moment, je passe à une autre dimension, la dimension de ce qui embrasse tout. Donc, je ne peux aller vers la source divine, vers Dieu, que par le cœur. C'est-à-dire, je me place à un autre niveau qui n'est plus un niveau intellectuel, qui est un niveau existentiel, où je suis avec plus haut que moi, plus vaste que moi, et je me tiens simplement dans cette dimension. Et quelque part, ce n'est plus tellement moi qui pense ou agis, ça agit et ça parle à travers moi. Mais ce que je crois que l'expérience du cœur, c'est une expérience tout à fait extraordinaire qui fait que je me place à un autre niveau. Alors, effectivement, là, nous pouvons comprendre ce qu'est l'amour des saints, c'est-à-dire ils embrassent toute existence. Et tout ce qui vit a du prix aux yeux de Dieu, est-il dit. C'est une expérience véritable. Alors là, on est, je dirais, l'amour des saints, c'est l'amour universel. C'est l'amour qui est capable de tout embrasser, y compris les plus petites choses. Donc là, on est dans, au sens fort de ce qu'on pourrait appeler la charité ou le chérir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, on est capable d'aller avec le cœur dans la vie. On est capable de voir la source de vie et la manifestation de cette source. Donc on est devant des niveaux extrêmement forts de connaissances, derrière des mots qui peuvent paraître très simples.
À l'heure de cette année scolaire qui se termine, avec tous ces examens également, un sujet de philosophie avec vous, voici la question. Qu'est-ce qui donne un sens particulier à votre vie ?
Je n'ai pas le sentiment que je viens de rien, que je suis rien et que je vais vers rien. Je crois qu'il y a un rien libérateur et je pense que parfois faire l'expérience du vide est extrêmement importante, mais pour comprendre quoi ? Pour comprendre alors quelque chose qui est l'inouï de l'existence. Et cet inouï de l'existence montre l'inouï de l'origine qui est la même chose que l'inouï de la destination. Je crois que le sens, ça va plus loin que tout. Quand on dit que la vie a du sens, on ne parle pas intellectuellement du sens, on parle premièrement de la valeur. C'est-à-dire, on ne parle pas du sens comme direction ou signification, on parle du sens comme valeur, et au-delà de la valeur, on parle du fondamental. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque je fais l'expérience du sens de la vie, le sens de la vie n'est ni utilitaire, ni intellectuel, ni individuel, il est, alors, au sens fort du terme, transcendant, c'est-à-dire fabuleux.
Mais comment découvrir cette intériorité dans un monde où le brouhaha règne, où nous mettons toujours des casques sur les oreilles, où les gens semblent s'enfermer et ne laissent pas l'intériorité de leur être s'ouvrir ?
Alors ça, c'est une des plus grandes expériences qui puisse se faire, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui vit en nous. C'est ce que les chrétiens appellent le Christ. C'est ce qu'on peut appeler le soi. Je sais que ça pourra énerver des gens que je rapproche le soi et le Christ, mais il y a quand même en nous un être éveillé, plus éveillé que nous-mêmes. Ce que dit saint Augustin, cet étrange étranger plus intime à moi-même que moi-même. Et je dirais cet être qui se réjouit de nous ou qui s'attriste de nous et qui fait qu'à un moment, on peut pas tricher parce qu'il y a en nous quelqu'un qui sait et qui sait mieux que nous.
Et ce n'est pas du viol.
C'est pas du viol parce que y a pas une, ça nous empêche pas d'exister. Ça se réjouit ou ça s'attriste. Pourquoi ? Pour que nous soyons nous-mêmes.
Quelles sont, selon vous, les clés pour que la personne puisse s'épanouir ?
Il y a trois manières de le découvrir. Le premier, c'est la fatigue de vivre dans le brouhaha. Mais à un moment, on en a assez, notre corps crie grâce et on a besoin de repos. La deuxième, c'est les moments de qualité de l'existence où il y a quelque chose de tellement beau que le reste pâlit. Et troisième point, il y a quand même des pratiques. C'est-à-dire, les sagesses nous ont appris que on peut faire vivre cette personne en nous qui appelle à la vie, qui a la saveur de la vie. Alors, il y a toutes les pratiques. Aller dans la nature, c'est une expérience de la personne. Faire l'expérience de l'effort, c'est une expérience de la personne. Tout engagement profond dans la relation humaine, dans l'engagement politique, social, humain, nous oblige nécessairement, si on veut être juste, à écouter. Et puis, il y a la prière, il y a la méditation, il y a le silence, il y a le jeûne, il y a toute la vie spirituelle, ça n'est que ça.
Dimension humaine et dimension spirituelle avec vous, donc Bertrand Vergely, pour cette émission Tendance Confidence ce dimanche matin. Quelle distinction faites-vous entre l'oubli et le pardon ?
Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne peux pas oublier ». Non, il n'est pas question d'effacer, de gommer, mais il n'est pas question de ressasser non plus. Et je crois que le pardon, c'est ce qui permet de sortir du ressassement, de la vengeance, de la rancune. Et de passer à un autre niveau. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais ça ne veut pas dire aussi qu'on est obsédé. On passe à un autre niveau.
Est-ce que le pardon, c'est croire ou espérer que la personne qui m'a fait du mal est capable d'évoluer et d'aller vers le bien ?
Espérer, peut-être, mais en tout cas, c'est arrêter de la maudire. Ensuite, on espère tous. Bien évidemment que celui... si on peut espérer, ça veut dire qu'on a arrêté de la maudire. Et donc on peut penser, on espère, bien évidemment, l'idéal, l'important, c'est pas de châtier tous ceux qui ont commis des fautes, ce serait l'idéal, c'est qu'ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait, qu'ils changent de vie. Donc le véritable pardon, c'est une théorie révolutionnaire du changement de la vie.
Et dans la tradition chrétienne, on parle aussi de conversion, de se tourner vers le bien. Est-ce que c'est cela dont vous parlez également, Bertrand Vergely ?
Oui, le retournement de soi-même. Et au fond, tout le problème, c'est ça qui est très intéressant dans la tradition chrétienne. Moi, je pense que c'est une théorie révolutionnaire qui vise à changer la vie pour que les gens aillent vers eux-mêmes et dans leur liberté. Donc, effectivement, là, on peut assister. Effectivement, le retournement est une merveille. C'est-à-dire que tout d'un coup, un être humain soit capable de changer, c'est la face du monde qui est changée.
Page 93 de votre livre qui a pour titre « Retour à l'émerveillement », vous écrivez « Il est angoissant d'exister et d'être si peu de choses face à ce qui est. Il est merveilleux d'exister alors que nous pourrions n'être rien. »
Oui, je pense que c'est une expérience de fond. Je crois que c'est ce que Heidegger a bien réfléchi et Pascal. Ils se sont posés la question du sens de la vie, mais la question du sens de la vie, ils sont allés la chercher là où il y a l'abîme. Et c'est au fond de l'abîme qu'ils ont trouvé ce sens de la vie. Pour comprendre que l'existence est vertigineuse et qu'elle est tout, il faut avoir approché du fait qu'elle est presque rien. Et à ce moment-là, je dirais que l'existence qui est la nôtre est d'autant plus vertigineuse qu'elle est d'une fragilité absolument stupéfiante. Et donc, quand on comprend ça, on voit ce sens de la vie dont je parlais, c'est plus qu'une direction, c'est plus qu'une signification, c'est plus qu'un sens individuel, c'est plus qu'un sens intellectuel, c'est un sens foudroyant.
Donc avec Christiane Singer, vous pourriez dire à quelques secondes de votre mort, Bertrand Vergely, tout est vie, rien n'est plus fort que le miracle de la vie.
Mais écoutez, je ne sais pas si je pourrais le dire, j'espère pouvoir le dire, je crois que rien ne peut altérer la vie. Vous voyez, Ethil Soum, quand elle est dans les camps de concentration, elle dit la même chose. Elle est en camp de concentration, mais elle dit, en fait, je dirais que la vie est belle. Ce qui est au fond extrêmement logique. Si la vie n'était pas belle parce que le nazisme existe, ça voudrait dire que le nazisme est plus fort que la vie. Or, le nazisme n'est pas plus fort que la vie. Le cancer n'est pas plus fort que la vie. Le sida n'est pas plus fort que la vie. le sida est une chose, le cancer est une chose, le nazisme est une chose, et la vie en est une autre. Je crois qu'à un moment, on vit une confusion, et quand on vit une confusion, on croit que le mal, c'est la seule réalité. On croit que la mort, c'est la seule réalité. Évidemment, l'expérience de ces êtres qui sont confrontés à des situations terribles est de dire, mais pas du tout. La réalité se trouve ailleurs. Alors ça, pour le dire, il faut le dire spirituellement. Il ne faut pas le dire pratiquement. Pratiquement parlant, on pourrait dire Christiane Singer est morte et sur un plan matériel, la mort est plus forte que la vie. Oui, mais sur un plan spirituel, ça veut dire que la vie ne se résume pas au cancer. La vie ne se résume pas au nazisme. La vie ne se résume pas aux maladies. Et attention à vouloir résumer la vie uniquement à sa part morbide.
Et en conclusion pour cette émission, Bertrand Vergely, s'émerveiller pour vous, c'est quoi ?
Nous venons d'un émerveillement, nous venons d'une extase, d'une jubilation, nous venons de choses sublimes qui ont été décrites par les grands mystiques dans leur contemplation.
Podcast by Tendance Ouest.